Professeur Godet, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi choisir ce moment pour publier la Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques congolaises, une analyse critique des enjeux politiques, économiques et sociaux?
Je réfléchis sur cette question depuis 2008. J'avais commencé par prêcher à l'oral, parce que tu sais que au-delà de mon statut de professeur, je suis pasteur. Je me suis rendu compte que j'étais en train de pêcher dans un désert. C'est pourquoi je me suis dit que je vais mettre ce que je disais de manière orale sur les papiers. Peut-être que les gens peuvent lire et comprendre les bien fondés de notre démarche.
Quelle est l'économie générale de cet ouvrage?
Si il faut faire l'économie générale de ce livre, je te dirai tout de suite que, au-delà de l'introduction et de la conclusion, cet ouvrage comprend 4 chapitres. Le premier traite de l'historique du portefeuille de l'État congolais. Il passe par l'époque coloniale, la façon dont les entreprises étaient gérées, par la Deuxième République et enfin l'époque contemporaine, donc par rapport aux réformes actuelles. Et lorsque vous terminez ce premier chapitre, il y a le deuxième qui suit. Lui, il traite de cette réforme privative du 7 juillet 2008. Et au niveau là, nous sommes en train de présenter les réformes telles qu'elles ont été initiées par les autorités de notre pays. Et c'est seulement au niveau du troisième chapitre que nous commençons à faire une analyse critique de ces réformes. Et pour terminer, le quatrième chapitre est consacré à la fragilité étatique de notre pays. Donc voilà de manière ramassée ce que contient cet ouvrage et ce qu'il fait, ce qu'il est. Nous sommes en train d'appuyer sur les tocsins pour faire voir à ceux qui peuvent nous entendre que ces réformes ont beaucoup d'enjeux politiques, économiques et sociaux qu'il faut en tenir compte pour éviter que les réformes soient une modification robotique des textes juridiques, mais que ce soit vraiment des réformes qui sont servantes du développement d'un État.
Mm-hmm. Et revenons au premier chapitre, lorsque vous parlez de l'historique de ces entreprises, quel est le moment qui a marqué ces entreprises?
Oui, vous verrez qu'à l'époque coloniale, ce sont ces entreprises qui nourrissaient non seulement la colonie, mais aussi l'État colonial. Parce que vous le savez que la première entreprise publique de notre pays a été créée en 1887 par Léopold II. Et après ça, on a suivi les sociétés à Chartres. Ce sont ces sociétés qui étaient vraiment des vaches à lait pour notre République. À l'époque, la fiscalité n'avait qu'une part bénigne dans notre budget. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, après la colonisation, au lieu que ces entreprises soient servantes de la nation, elles sont devenues servantes des mandataires qui vont y aller gérer. Nous sommes de ceux qui pensent que les malheurs de nos entreprises, ce sont les acteurs. C'est notamment les mandataires et leurs valets qui ont été recrutés dans ces entreprises. Nous sommes de ceux qui pensent que le désengagement actuel de l'État de ces entreprises est inopportun et qu'il y avait lieu tout simplement de chercher ces moutons à cinq pattes, des personnes aux qualités exceptionnelles qui pouvaient bien gérer ces entreprises et qu'elles pouvaient bien fonctionner en tant qu'entité étatique. Pourquoi nous soutenons cela? L'environnement politico économique et social du Congo d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. On doit en tenir compte, chercher à se désengager des entreprises publiques dans un état post-conflit et partant fragile. Il y a risque que ce pays puisse disparaître ou qu'on puisse précipiter la balkanisation. Dans des pays post-conflit et partant fragile, on a besoin de plus d'État et non de moins d'État. Donc l'État ne peut pas se désengager comme ça au risque de perdre la face devant les administrés.
Je reviens au titre de l'ouvrage, la Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques congolaises. Alors, quel est le rôle que la Banque mondiale a joué dans cette réforme des entreprises publiques?
Nous étions en rupture avec les institutions de Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc nous étions en rupture depuis 1990. À cause de la gabegie et de la mégestion qui a caractérisé la Deuxième République. Avec l'arrivée du magistrat suprême actuel, bien des choses ont bougé. C'est ainsi que lui, il prend le pouvoir au mois de janvier 2001 et au mois de 2001, il commence déjà à poser ce que moi j'appelle les grands actes qui nous ont amené la croissance actuelle. Parmi ces grands actes, il y a eu notamment le retour du Fonds monétaire et de la Banque mondiale chez nous. C'est ainsi que quand ces institutions sont rentrées chez nous, ils ont conseillé non seulement l'assainissement des finances de l'État, mais elles ont également conseillé une panoplie de réformes, notamment la réforme du portefeuille. C'est pourquoi nous disons que la Banque mondiale a joué un grand rôle dans ces réformes. Mais ce que nous déplorons ici, c'est que la Banque mondiale croit qu'il n'y a qu'un seul logiciel qui peut opérer dans tous les environnements. Non. La Banque mondiale n'a pas tenu compte de l'environnement atypique de la République démocratique du Congo. Tenez, sur le plan politique, j'étais en train de vous dire que nous sommes un État fragile. En tant que tel, nous avons encore besoin de plus d'État et non de moins d'État. Donc pour nous, l'étatisation consolide la souveraineté de l'État. L'avoir sans pouvoir, c'est du leurre. Il faut qu'on puisse créer un équilibre entre l'avoir et le pouvoir. Et ces pouvoirs passent notamment par l'étatisation des entreprises. Et surtout qu'il y a une solution de réchange. Tous les diagnostics qui ont été posés dans ce secteur renseignent que les grands problèmes de nos entreprises, c'est la mauvaise gestion. Donc, il fallait une thérapeutique proportionnelle au diagnostic pour remplacer les mauvais gestionnaires par les bons gestionnaires, et ça pouvait marcher. Un autre enjeu économique, on initie ces réformes dans un environnement de crise financière internationale. Dans un tel environnement, les capitaux frais font partie de ce qu'on appelle des denrées rares. Tu verras même que généralement, les appuis budgétaires qu'on promet aux États d'Afrique ne tombent pas toujours au moment où on les attend, parce que les États de l'Occident doivent faire face eux-mêmes aux problèmes qui ont été générés par la crise financière internationale qui n'a pas encore totalement disparu. Donc chercher aujourd'hui à se désengager de nos entreprises dans cet environnement va nous pousser à les brader, à les vendre à vil prix au nom de la loi de l'offre et de la demande, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de preneurs sur la place boursière. Et à ce qui concerne l'environnement économique national, c'est maintenant que notre gouvernement se bat pour chercher à donner aux consommateurs congolais un pouvoir d'achat. Cela, il va de soi que même si on changeait les statuts de ces entreprises, elles ne seront pas performantes de la manière différente quand elles étaient gérées par l'État, tout simplement parce que les biens et les services qui sont produits par ces entreprises doivent être consommés par les consommateurs congolais qui, pour le moment, n'ont pas encore le pouvoir d'achat conséquent. Et en pareil cas, ça serait du chou vert chou. Ce qu'on pouvait vivre si ces entreprises étaient bien gérées en tant qu'entreprises publiques, c'est ce qu'on vivra si on changeait les statuts et que les entreprises sont bien gérées. L'avantage ici, c'est que si ces entreprises sont d'abord valorisées à court et moyen terme, les jours où l'environnement politique économique va changer, nous pouvons les vendre à leur vraie valeur. Sur le plan social, je te pose une question. Si on connaît vraiment 1 million de Congolais qui sont capables d'acheter de l'électricité à sa vraie valeur, il n'y en a pas. Ça va déboucher sur des remous. Or, ce pays a besoin de la paix pour sa reconstruction qui a été déjà enclenchée par notre gouvernement. Donc, en faisant cette analyse critique, nous ne sommes pas contre le gouvernement qui fait déjà bien des choses, mais nous sommes d'attirer une sonnette d'alarme pour que les gens comprennent que ces réformes mutilent les réalités congolaises parce qu'elles sont inadaptées à l'environnement et au contexte de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui va se passer les jours où les plus démunis d'entre nous seront incapables de s'acheter l'électricité à sa vraie valeur? Cela va déboucher sur des remous sociaux. Et je voudrais te dire que la planification économique fait et défait les rois.
Professeur, où trouver cet ouvrage, La Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques congolaises, une analyse critique des enjeux politiques, économiques et sociaux?
Oui, ici à Kinshasa, les livres, on peut les trouver au Grand Hôtel Kinshasa, on peut les trouver à l'Hôtel Memling, on peut les trouver dans tous les magasins de Pelou Store, on peut également les trouver dans la librairie Grand Lac. Donc c'est ça le point de vente que nous avons retenu pour le moment. Mais toute personne qui peut nous contacter au téléphone, il sera servi dans les minutes qui vont suivre.